Le petit m'a dit, papy, tu chilles pas assez. Ça veut dire quoi, chiller ?
Ben, tu vois, je t'explique. Tu t'assois, j'allume le poste et on écoute l'agité du local.
Ah bon ? Eh ben, ok, c'est ça, chiller.
Ça vous arrive sans doute parfois de vous plonger dans de vieilles photos de famille, des visages qui ne vous disent pas grand-chose, des histoires éloignées de la vôtre, mais alors vous posez des questions. Qui étaient-ils ? Quelle est leur histoire ? Quelle était leur passion peut-être même ? Mon invité d'aujourd'hui ne s'est pas penché sur l'histoire de quelqu'un qui lui est proche, mais sur celle d'un cinéaste dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais qui a pourtant connu un certain succès, qui a pensé l'image de cinéma avec sensibilité et sens du détail. Valentin Vignégito nous parlera aujourd'hui de son ouvrage sorti en décembre 2023 qui retrace le parcours de Serge Bourguignon. Dans le grand entretien d'aujourd'hui, il nous propose en quelque sorte une leçon de cinéma. Bienvenue à vous, amis auditeuristes, pour la dernière agitée du local de la semaine. On termine l'émission d'aujourd'hui avec l'agenda culturel de la semaine, de très beaux rendez-vous dont j'ai envie de vous parler encore. Restez bien avec nous. Mais bien sûr, avant le grand entretien, comme à notre habitude, on jette un coup d'œil sur les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut en Joue. On commence avec la colère des agriculteurs qui ont bloqué hier deux ronds-points à Château-Gontier. Ils avaient d'ailleurs prévu de rester sur place jusqu'à aujourd'hui 17h, mais ont finalement stoppé l'action vers 23h hier suite aux annonces de Gabriel Attal. Cette action était menée suite à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs. Un système de déviation avait été mis en place en amont avec les gendarmes. Maintenant, allons à Segré avec le 21e salon Antiquité Brocante qui se tiendra le 3 et 4 février. Pour cette nouvelle édition, une trentaine d'exposants de tous domaines seront présents. Un rendez-vous donné notamment aux passionnés de meubles d'époque, objets de décoration, bijoux anciens, livres rares, etc. Sont attendus donc ce week-end entre 2000 et 3000 visiteurs. Pour terminer votre hebdomadaire, Le Haut en Joue s'est rendu à Ruillé-Froidfond à la rencontre des parents d'élèves qui se sont mobilisés lundi 29 janvier contre la fermeture d'une classe. Les parents d'élèves présents devant l'école de Ruillé pointent notamment du doigt des fermetures dues à des logiques comptables qui sont une conséquence directe des suppressions de postes. Ces fermetures risquent d'entraîner des effectifs plus chargés en classe. Les parents d'élèves craignent des conditions de travail, conditions d'accueil et d'instruction dégradées. Valentin Vignégito, bonjour. Vous avez grandi en Mayenne et vous venez de sortir votre premier ouvrage, Serge Bourguignon, un cinéaste rebelle, aux éditions Jean-Jacques Guillaume Trace ta vie. Alors comment avez-vous fait la rencontre de ce cinéaste, de ses films, de son histoire ? Car pour le grand public aujourd'hui, Serge Bourguignon n'évoque pas grand-chose malgré un parcours particulièrement intéressant. Vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans le livre.
Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, effectivement, moi c'est au cours de mes études de cinéma que j'ai... croiser le nom de Serge Bourguignon, enfin surtout son film le plus important, Les Dimanches de Ville-d'Avray, notamment parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 1963. Bon, l'Oscar, c'est quand même une récompense qui parle à beaucoup de cinéphiles. Et c'est vrai, quand j'ai découvert ce film, alors il passait une nuit sur France 2, dans le cadre du ciné-club de France 2, je l'ai découvert comme ça. Et pour moi, ça me paraissait évident que c'était un film important et je ne comprenais pas pourquoi il avait été... pourquoi je ne le connaissais pas, pourquoi on n'en parlait pas à l'université. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Le film donc, est sorti en 1963, fin 1962 en France. À l'époque, c'était le contexte de la Nouvelle Vague française, qui était portée par des jeunes critiques devenus cinéastes ensuite, hein, comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Claude Chabrol. Et Serge Bourguignon était de la même génération que ces jeunes cinéastes à l'époque. Sauf qu'il ne faisait pas des films qui s'inscrivaient dans ce mouvement de la Nouvelle Vague.
Et donc, vous avez décidé de mener une enquête, en quelque sorte.
Oui, mais tout à fait. Et puis, quelle a été la carrière ensuite de ce cinéaste après ce film ? Et même avant, d'ailleurs, avant Les Dimanches de Ville-d'Avray, d'où venait-il ? Enfin, vraiment, j'ai dû vraiment retracer... Oui, toute sa carrière.
Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers cet ouvrage, on place la réussite à un autre niveau. Ce n'est pas celle du succès, même si on va y revenir et on ne peut pas le nier. Il a eu un certain succès à l'époque. Mais vous vous penchez là sur l'œuvre d'un réalisateur pour son travail, particulièrement sur un court-métrage et ses trois longs-métrages. Pour une fois, on sort des grands noms connus, de tous, des légendes, pour parler cinéma.
Je parle d'une vision, en fait. Il a une vision du monde qui s'exprime, en fait, dans son cinéma. C'est un artiste avant tout. C'est vrai que dans le livre, je ne parle pas non plus de tous les écrits qu'il a, parce que Serge Bourguignon continue à écrire encore aujourd'hui, mais il a un seul ouvrage qui a été publié, qui a été édité à l'époque. Ça s'appelle Sikkim ou le langage du sourire, où il avait voyagé justement à travers les contrées himalayennes. Mais même dans son écriture, on voit sa vision du monde. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que la Nouvelle Vague à l'époque défendait le cinéma d'auteur, mais n'a pas considéré finalement que Serge Bourguignon était un auteur, on va dire intéressant, un auteur qui, ou alors ils n'étaient pas d'accord avec cette vision du monde, cette vision peut-être que eux n'avaient pas. Enfin, Serge Bourguignon venait des voyages. Eux venaient des salles de cinéma quelque part. Ils ont constitué leur vision du cinéma à travers le cinéma, par le cinéma.
Et
Et
alors,
Serge Bourguignon partait de la vie, partait de la vie en fait, partait des gens, partait du monde entier quelque part.
ce qui est important de préciser, c'est bon de le savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître déjà Serge Bourguignon ou même le cinéma précisément pour vouloir tourner les pages, parce que votre ouvrage nous parle de beaucoup de choses. On apprend à regarder une image de cinéma à travers vos analyses. Votre ouvrage nous permet aussi de comprendre un système de production de films, notamment la différence entre la liberté d'expression d'un réalisateur en France par rapport à ce qu'il se passe à Hollywood. Et puis on se replonge dans le contexte de l'époque, donc fin des années 50 et début des années 60, vous nous le disiez. Serge Bourguignon arrive au cinéma en plein cœur de la Nouvelle Vague. En quelques mots, peut-être expliquez-nous ce tournant du cinéma en France pour bien comprendre.
Alors, à l'époque, il y a donc la Nouvelle Vague apparaît à la fin des années 50, hein, pour être précis, avec les films de Jacques Rivette, les premiers Claude Chabrol, les 400 coups de François Truffaut, Jean-Luc Godard, enfin, voilà, ce sont des jeunes cinéastes, donc je le disais, qui s'emparent de la caméra pour faire leur propre film, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Il fallait avoir été assistant réalisateur, assistant d'assistant, enfin, c'était extrêmement long pour avoir une chance d'être réalisateur. Et en plus, à côté, Serge Bourguignon avait fait une école de cinéma, qui était la première en France, hein, si je ne m'abuse, qui s'appelait l'IDEC. Et finalement, il y avait ce cinéma traditionnel, cinéma dit de qualité, face à ce cinéma de nouvelle vague, ce cinéma, oui, plus libre, qui apparaissait et où les producteurs, finalement, donnaient leur chance à ces jeunes pour faire leur propre film. Donc, il y avait deux manières d'envisager le cinéma à ce moment-là. Et Serge Bourguignon, quelque part, était de la génération de la nouvelle vague, mais avait été assistant auparavant, notamment de Jean-Pierre Melville à l'époque. Et il avait fait surtout une école de cinéma, ce que les jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague n'avaient pas fait. Donc, il se retrouvait finalement entre ces deux manières en fait d'envisager le cinéma à l'époque. Et son film, Les Dimanches de Villedameray, quelque part, il a été très soutenu par une partie de la critique, et alors très attaqué par l'autre partie de la critique. Bah, je vous laisse deviner laquelle, celle qui défendait, on va dire, les
C'est
films de la
ça.
Nouvelle Vague.
Parce que la nouvelle vague, en fait, quand elle est arrivée, donc vous parliez effectivement de jeunes qui s'emparent des caméras, d'un matériel qui devient finalement plus
Plus
portatif,
léger,
plus
enfin
léger,
voilà, plus
voilà.
adapté pour tourner en extérieur. Il y a plus, oui, complètement, il n'y a plus besoin forcément de studio et de matériel lourd. Ça arrive aussi avec une révolution technologique à ce moment-là. Enfin,
Exactement.
c'est évident.
Alors, ces jeunes qui amènent la nouvelle vague dans les salles de cinéma sont aussi ceux qui écrivent la critique des films dans les Cahiers du cinéma, qui est la grande revue critique du cinéma de l'époque. Mais ce qui fait que Serge Bourguignon a bien du mal à être soutenu par les critiques, quelles qu'elles soient, c'est que, et je vous cite, lui ne faisait partie d'aucun groupe et n'affichait pas ses idées politiques. Il aurait été un solitaire assumant pleinement ses différences avec ce que certains prennent pour de l'insolence. Mais malgré tout, vous, ce que vous dites, c'est que son cinéma rejoignait quand même sur certains points ce nouveau mouvement de l'époque, notamment d'un point de vue formel. Et vous en parlez déjà pour son premier long métrage, Cybèle ou Les Dimanches de Villedavray.
Alors oui, il y a une liberté quand même dans le cinéma de Serge Bourguignon. Il n'est pas comment dire, c'est très écrit, je veux dire. Il y a un scénario qui est très très écrit, mais il y a une part quand même de liberté au niveau de la direction d'acteur. Il y a un cadre dans la manière de diriger les acteurs, mais il leur laisse une liberté dans l'écriture des dialogues, dans les émotions à donner aux personnages. la nouvelle vague utilisait beaucoup l'improvisation, notamment dans le cinéma de Godard. Là où le cinéma traditionnel était plutôt, enfin, j'allais dire proche du théâtre. Encore une fois, on peut mettre beaucoup de choses dans le cinéma traditionnel, et ça dépend des auteurs, mais dans les films que n'aimait pas justement Truffaut ou Godard, l'argument c'était c'est des films trop proches du théâtre avec un jeu trop théâtral, ce qui n'est pas le cas du cinéma de Serge Bourguignon.
Et donc, dans votre livre, on découvre effectivement tous les enjeux de l'époque, le changement du cinéma, mais vous nous racontez également l'histoire de Serge Bourguignon, en tout cas celle de son parcours artistique. Et avant de vouloir travailler l'image en mouvement, il est étudiant en sculpture. Et à un moment, je le cite, « Puisque j'écrivais des choses qui étaient très visuelles et puisque j'en arrivais à peindre des histoires, peut-être que ce que j'écrivais, c'était des scénarios et sans doute que ce que je devais faire, c'était des films. » Donc en fait, dès le début, on sent quelqu'un de sensible et qui se questionne énormément sur ce qu'il est en train de faire. C'est un artiste qui se remet beaucoup en question.
Oui, tout à fait. Il était, oui, comme vous l'avez dit, la sculpture, la peinture et le cinéma à ce moment-là. Il était, enfin, j'allais dire qu'il était encore naissant en tant qu'art finalement. Le cinéma a commencé à être pris au sérieux au début, enfin, dans les années 30. Avant, c'était considéré comme un divertissement grand public, mais pas comme un moyen d'expression artistique. C'est arrivé vraiment avec à la fin des années 20, début des années 30. Et avec aussi cette première école de cinéma, donc en France, l'IDEC, qui permettait justement à ces cinéastes, à ces jeunes, de se former à l'expression artistique à travers le cinéma. Oui, c'est quelqu'un qui s'est. En fait, je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup posé de questions. Il suivait son intuition quelque part. Il a toujours suivi son intuition et pour lui, c'était évident que c'était le cinéma qui correspondait au mieux, oui, à sa manière de s'exprimer, tout simplement.
En 1960, il réalise le court-métrage Le Sourire, qui obtient la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes. Et déjà, on ressent son souci du détail, vous le dites, une réflexion philosophique, une image qu'il travaille comme une métaphore. La construction de l'image, du cadrage, c'est comme ça qu'il raconte son rapport au monde dès le début.
Ah bah, moi, vraiment, quand je regarde Le Sourire, je vois une métaphore de l'enfant qu'a pu être Serge et qui a trouvé sa place dans le monde. De la même manière que ce petit moine dans Le Sourire trouve sa place dans le monde à côté de ce vieux bonze. Enfin, c'est évident. Il y a quelque chose de toute façon de très personnel dans les films de Serge Bourguignon. C'est une vision, c'est une vision d'auteur vraiment à part entière. Dans Le Sourire, les plans sont extrêmement construits, extrêmement bien composés, très écrits. Le film est tourné en Birmanie aussi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il s'inscrit dans un tournage de 4 courts-métrages qui ont été faits en Asie à ce moment-là, en Asie, enfin dans plusieurs pays d'Asie, et celui-ci est tourné en Birmanie.
Et donc là, le cinéma, on peut le dire, c'est presque l'outil d'une réflexion philosophique pour le réalisateur.
Oui, tout à fait. En fait, au cours de ses voyages en Asie, Serge Bourguignon a découvert quelque part une culture, le bouddhisme aussi, la religion du bouddhisme, même la spiritualité du bouddhisme, hein, on peut dire que c'est une spiritualité, et ça se ressent évidemment dans ses films et notamment dans Le Sourire. Mais pas que, hein, même dans Les Dimanches de Ville d'Avray, on a comparé beaucoup Les Dimanches de Ville d'Avray à un film japonais. D'ailleurs, le film a eu un énorme succès au Japon. Au moment de sa sortie.
Valentin, nous reviendrons dans quelques instants justement sur ce film Si belle ou Les Dimanches de Ville d'Avray. Avant ça, je vous propose une pause et musicale avec Paramore, Burning Down the House.
Cool babies, strays but not a stranger. I'm
est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio. Aujourd'hui, le grand entretien est en compagnie de Valentin Beignet-Gitteau, originaire de la Mayenne et auteur de l'ouvrage Serge Bourguignon, un cinéaste rebelle. Tout à l'heure, nous parlions du film Cybèle ou Les Dimanches de Ville d'Avray. C'est un film qui est produit en France et qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 1963. Et donc, avec l'aide de photogrammes, dans votre ouvrage, vous nous expliquez comment il construit son image. Par exemple, déjà dans Cybèle, il noie sans cesse les personnages au milieu du décor, avec des plans très larges, et il utilise beaucoup le surcadrage. Mais alors, ce sont des surcadrages plutôt arrondis. Expliquez-nous peut-être déjà, pour qu'on comprenne bien, ce qu'est un surcadrage. C'est intéressant de comprendre ce que ça crée au cinéma.
Un surcadrage, alors dans un plan de cinéma, c'est quand un personnage est cadré à l'intérieur d'un cadre, si vous voulez. Il peut être effectivement cadré à travers une fenêtre. On peut juste voir la tête d'un personnage dans la cadrure d'une porte, d'une fenêtre, d'un miroir. Et effectivement, il y en a quand même à de nombreuses reprises dans le cinéma de Serge Bourguignon. Ils peuvent être surcadrés, mais ils peuvent être en très gros plan. Et il y a pas beaucoup de plans intermédiaires. Soit on les voit vraiment de manière très, très... en plan de grand ensemble, en plan très large. Et là, c'est aussi une inspiration de... Enfin, Serge est aussi influencé par la peinture à ce moment-là. Ou à l'inverse, on les voit en très gros plan et surcadrés. Bon, dans le cadre du film de Les Dimanches de Ville d'Avray, le personnage principal est amnésique. Il y a un décalage entre ce personnage et la société. Il est surcadré constamment. Le surcadrage ici, en tout cas selon moi... marque un espèce d'emprisonnement, une absence de liberté, au contraire des plans où ce personnage se trouve avec le personnage de Françoise, Cybèle, qui est la petite fille justement autour des étangs de Ville d'Avray.
On parle du surcadrage ici, mais vous nous accompagnez tout au long du livre sur l'analyse de l'image de cinéma et particulièrement sur celle de Serge Bourguignon. J'ai envie de revenir sur un autre point. Dans votre livre, vous citez beaucoup les critiques de l'époque, évidemment les Cahiers du cinéma, mais il y a également Le Masque et la Plume en radio. Et donc, vous citez les différents points de vue que ces critiques portent sur ces films. C'est intéressant de voir comment les critiques peuvent dessiner finalement le succès d'un film et le parcours d'un réalisateur. En gros, si on ne les a pas dans notre poche, c'est compliqué.
C'est ce que j'en ai déduit en fait en étudiant toutes les critiques toutes les critiques que j'ai trouvées en tout cas qui ont été émises sur les films de Serge Bourguignon à l'époque. Quelque part, on peut imaginer que les films de la Nouvelle Vague en fait s'est servi des Cahiers du cinéma et de certains réseau, on va dire, de critiques pour asseoir un succès aussi en termes de production film. En fait, ils ont après certains films de la Nouvelle Vague, pour moi sont quand même certains films. Voilà, Les 400 coups, je trouve que c'est quand même un très bon film. Mais le fait d'avoir certaines critiques influentes à l'époque a pu aider aussi à ce que ce film soit connu. Alors que le film de Serge Bourguignon, en fait, il est sorti aux États-Unis avant de sortir en France, justement parce que il était ni du cinéma de la Nouvelle Vague, ni du cinéma traditionnel, classique, on va dire. Et il aurait pu finalement ne pas sortir en France.
Et comme vous dites, il y a une vraie reconnaissance aux États-Unis de son travail. Hollywood vient même le chercher, lui propose quelque chose de très rare à l'époque. C'est le director's cut, au moins pour la version francophone du film. Expliquez-nous pourquoi c'est rare. Parce qu'on n'imagine pas forcément cette différence entre des films réalisés en France et des films réalisés à Hollywood, encore aujourd'hui d'ailleurs.
Alors déjà, effectivement, c'est suite à son Oscar et au succès qu'il a eu aux États-Unis, donc Serge Bourguignon est appelé à travailler pour travailler à Hollywood. On lui propose déjà énormément de projets, sauf qu'à Hollywood, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas le réalisateur qui a le dernier mot, comme c'est le cas en France. C'est le producteur, c'est celui qui apporte l'argent. Le fait déjà que Serge Bourguignon ait refusé autant de projets, donc ça montre qu'il voulait avoir le contrôle de son film, qu'il voulait avoir la pleine expression artistique quand il faisait un film. Encore une fois, à Hollywood, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Mais au bout d'un moment, le producteur Daryl Zanuck, qui était le producteur de la 20th Century Fox, énorme studio de production à ce moment-là, il lui a dit, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez refusé tous ces projets, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, Serge Bourguignon a eu une espèce de carte blanche pour faire le film de son choix, et il a repris un scénario qu'il avait commencé à écrire, qu'il avait déjà écrit avant Les Dimanches de Ville-d'Avray, un film qui s'appelait The Reward, La Récompense. Et il a pu le tourner mais vraiment en toute liberté, avec les acteurs de son choix, en plein milieu de Death Valley, la vallée de la mort, donc en plein désert, quoi. Et en plus du fait qu'il soit tourné en plein désert, bah les producteurs ne venaient pas non plus sur le plateau. Donc il avait d'autant plus de liberté à ce moment-là.
Malgré tout, dans la version qui est sortie donc aux États-Unis, la fin n'est pas la même dans la version sortie aux
Exactement.
États-Unis qu'en France.
Exactement, ouais. Par les contrats qu'il avait signés, Serge Bourguignon avait obtenu le director's cut, c'est-à-dire sa version, pour la sortie française, dans certains pays francophones, la Suisse, la Belgique, mais pour tout le reste du monde et tous les pays, enfin les États-Unis notamment, la fin a été remontée au moment justement où Serge revenait en France pour un autre projet, mais finalement Serge n'était pas au courant. Quand il est retourné aux États-Unis, il a eu la surprise, on lui a dit, on a remonté la fin du film. Pourquoi? Parce qu'à la base, dans la version de Director's Cut, la fin est une tragédie, en fait, ça finit mal. Le film termine voilà, tragiquement, avec la mort d'un personnage, alors qu'aux États-Unis, on a quand même la culture du happy end. Il faut quand même que le film plaise au plus grand nombre. Donc, voilà, on a remonté la fin, mais artificiellement, hein, c'est vraiment ça se voit que c'est pas comme ça que ça avait été écrit à la base. Et ça explique aussi une mauvaise compréhension et une mauvaise réception du film aux États-Unis. En France, The Reward a été reçu, on va dire, c'était à 50-50, puisqu'il y avait des cinéastes, enfin, il y avait des critiques qui justement, on parlait vraiment de chef-d'œuvre, hein, notamment la revue Art à l'époque, qui défendait un cinéma qui n'était pas celui de la Nouvelle Vague, mais à l'inverse, toutes les critiques qui défendaient la Nouvelle Vague n'ont pas compris le film, ne l'ont pas aimé, et surtout ont considéré que c'était un western, alors que dans la tête de Serge Bourguignon, c'était pas écrit comme un western. Donc il y a eu aussi cette double incompréhension à ce moment-là.
Et ensuite, il y aura le film À cœur joie avec Brigitte Bardot 1966. On ne va pas faire tout son parcours, il faut vraiment aller lire le livre. J'ai quand même envie de revenir sur un point. Vous avez énormément documenté vos recherches et vous avez également rencontré Serge Bourguignon lui-même pendant l'écriture du livre.
Oui, tout à fait. Ça a été un grand, grand moment. Déjà de voir en vrai une personne que j'avais vue que dans des archives d'émissions tournées dans les années 60. C'était assez incroyable. J'ai pu, il m'a parlé évidemment de sa vie, de ce qui s'était passé, de sa carrière, mais de ce qu'il faisait aussi à côté. Il m'a remis aussi un certain nombre de documents, d'articles, de photos. Dont certaines justement sont dans le livre, des photos inédites, hein. C'est des photos qui n'ont jamais été publiées, et évidemment certains de ces films qui sont absolument introuvables aujourd'hui, hein. Certains sont trouvables aux Archives françaises du film ou d'autres à la Cinémathèque française, mais on a retrouvé un court-métrage dans sa cave qui est aujourd'hui aux Archives françaises du film. Donc il y a vraiment une redécouverte de son œuvre, en fait, qui serait à faire, quoi. Pas uniquement des Dimanches de Ville-d'Avray. C'est notamment The Reward. The Reward mériterait aussi de ressortir.
Donc Serge Bourguignon, un cinéaste rebelle, est disponible à la commande dans toutes les librairies ou sur le site de la maison d'édition Trace ta vie. Merci Valentin de m'avoir accompagné tout au long de cette émission et de nous avoir partagé un peu de l'histoire de ce cinéaste.
Je vous en prie. Merci à vous.
Nous sommes vendredi et chaque vendredi, on fait le tour des événements culturels à venir. Je vous propose de commencer à Sablé-sur-Sarthe avec le théâtre L'Entracte. Sur la scène Joël Le Teul, vous pourrez découvrir la pièce de théâtre Oiseau de la compagnie Polka le 6 février. Et pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, l'histoire, c'est celle de Mustapha qui a perdu son papa, alors que Pamela, elle, a perdu son chien. Un jour déboule la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l'autre côté. Elle y va d'ailleurs tous les mercredis. l'espoir gagne Mustapha et Pamela, un plan de départ s'échafaude, la trouille au ventre, le cœur qui bat. C'est parti pour une aventure qui va entraîner toute l'école, faire trembler la maîtresse, rendre folle la directrice, énerver le gardien et affoler les parents d'élèves. Dans la cour de récréation, le sujet tabou de la mort devient incontournable. Les morts eux-mêmes s'en mêlent, plutôt que d'enterrer nos disparus dans l'oubli, cette pièce les met à l'honneur dans un spectacle insolent et drôle, plein d'humour et de poésie. À découvrir donc sur scène au théâtre L'Entracte le 6 février. Maintenant, je vous emmène au théâtre de Laval, là où Glace rencontrera la marionnette et un chef d'œuvre de la littérature. Ça sera avec le spectacle Les Vagues, qui s'inspire du roman de Virginia Woolf, du même nom, en 1931. Dans cette adaptation qu'Élise Vigneron met en scène, les personnages deviennent des marionnettes de glace à taille humaine et l'on suit leur trajectoire de la toute petite enfance jusqu'au crépuscule de leur vie. C'est une réflexion d'une grande beauté, à la fois plastique et dramaturgique, sur notre rapport au temps. Ici, le théâtre vous propose une expérience sensorielle unique. Ça se passe le jeudi 8 février à 20h30. Et pour terminer, si vous êtes plutôt du côté de Château-Gontier jeudi prochain, le Carré vous embarque au cirque avec le spectacle Bram. Maël Grenier, directeur du Carré, nous en dit quelques mots. Écoutez.
Bram, spectacle de cirque, une coproduction du Carré, de la compagnie Libertivore, mis en scène par Fanny Soriano. Donc Bram, c'est un rendez-vous de, on va dire, le rendez-vous amoureux, on va dire une convocation chorégraphique et circassienne du rendez-vous amoureux. C'est pour ça qu'évidemment on retrouve ce mot évocateur. Et il s'agit, pour Fanny Soriano, de convoquer de jeunes circassiens, donc qui ont des corps athlétiques, vifs, très élastiques, dans une danse de l'amour, le rituel du désir, et essayer de créer comme ça un dialogue physique, très, en même temps très sensible, corporel, autour de ce qui nous fait nous mouvoir, voilà, dans le désir, la fuite, la poursuite, et parfois l'immobilisme dans lequel on peut être dans un désir. Donc ça crée une nouvelle partition qui est très belle. Et Fanny Soriano est une circassienne, on va dire, montante dans le cirque contemporain d'aujourd'hui. Donc on invite vraiment les gens à venir découvrir Bram.
Et voilà, l'AJT du local est terminé pour aujourd'hui. Merci à Valentin Beignet-Gitaud d'avoir passé ce moment avec nous pour la présentation de son livre Serge Bourguignon, un cinéaste rebelle, sorti aux éditions Trace ta vie en décembre dernier. L'AJT s'arrête là, mais la programmation continue sur l'autre radio bien sûr, et votre soirée commencera à 19h avec Temps mort, parce que oui, chaque mois, Amazir Amaden guest Maël Fouché et Pablo Bourdoiseau marquent un temps mort dans le rap français et reviennent sur trois sorties marquantes récentes, analyse, vulgarisation et passages musicaux sont au menu de cette émission qui fait le pont entre auditeurs avertis et néophytes. Et puis ça continue à 20h avec Tempus Fugit en compagnie de Fred et Plom. Alors sur le papier, rien ne semblait les réunir ces deux-là, et pourtant Tempus Fugit est devenu leur dénominateur commun, et ils partagent avec vous leurs goûts musicaux pour la musique, ses anecdotes, ses particularités, son actualité et bien sûr son histoire. Voilà pour aujourd'hui, samedi sonne toujours plus rock sur l'autre radio, parce qu'à partir de 13h, vous écouterez Rock Dreams, puis à 18h, Rock à la Casbah. Votre week-end se terminera dimanche avec On lit quoi nous, votre émission sur la littérature jeunesse animée par Véronique Martin et Simon Roguet, des amoureux du livre. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle AJT du local. D'ici là, reposez-vous, riez, soufflez et surtout, s'il vous plaît, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.